Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Notre invité est l'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa, également économiste, chef de l'État équatorien de 2007 à 2017. Rafael Correa vit aujourd'hui en Belgique, il est consultant économique. Bonjour Rafael Correa.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Merci à vous d'être venu nous rejoindre dans nos studios. Rafael Correa, on vous présente généralement comme un chrétien de gauche, partisan d'une politique souverainiste, d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et d'intégration régionale en Amérique latine. Vous êtes l'auteur de « Équateur, de la République bananière à la non-république » publié en 2009 et également d'articles publié dans Le Monde diplomatique, dont l'un a pour titre « L'Équateur, un pays détruit en 2 ans », article daté de 2019, c'est-à-dire précisément 2 ans après votre départ de la présidence de l'Équateur. Avant d'aborder les sujets d'actualité, j'aimerais savoir qui vous êtes, comment vous vous définissez vous-même, Rafael Correa, dans ce qui est votre vie aujourd'hui, par rapport aux fonctions qui ont été les vôtres et à l'évolution de l'Amérique latine.
Comme un pensionné dédié aux affaires de foyer. Et voilà, je voulais être retiré un peu de la politique parce que ma femme est de la Belgique. On avait vécu 25 ans en Équateur et il fallait vivre quelques années et profiter de mes beaux parents qui en fait ont décédé. Profiter de mes beaux parents, être avec mes filles. Mes filles étaient en train d'étudier ici en France. Ils ont gagné des bourses du gouvernement de la France. Donc, je voulais me retirer, franchement, retirer. J'étais vraiment fatigué après 10 ans comme chef d'État de l'Équateur. Retirer un peu de la politique, rendre la calme à ma famille, rendre un peu de temps à ma famille. Malheureusement, on a été trahis, on a gagné l'élection, on a été trahis. Ils ont commencé une persécution politique brutale contre moi. Donc, j'ai dû rentrer en politique, me défendre, etc. Mais voilà, je voulais... Franchement, revenir à l'académie, j'étais avant d'être président, professeur universitaire, écrire des livres, j'ai des préparations de formation comme économiste, mais mon spécialisation, c'est le développement économique. J'ai eu le privilège de diriger un pays sous-développé pendant 10 ans, donc je crois que j'ai quelque chose à apporter pour la pensée de développement. Donc c'était mon plan, mais malheureusement, ils ont commencé une persécution contre moi et j'ai dû me défendre et rentrer de nouveau en politique.
Votre départ de l'Équateur a été très violent et vous êtes frappé aujourd'hui de 25 ans d'inéligibilité, c'est cela, Rafael
Correa ? Non, pas très, très violent. Quand j'ai laissé le gouvernement, on a gagné l'élection. Celui qui a gagné était mon vice-président, mais il nous a trahis. Je suis parti avec très grande popularité après 10 ans, 70% de soutien populaire. Avec même, je n'avais pas une amende de trafic, de circulation, rien de tout. Mais quand on a commencé à confronter le nouveau gouvernement, parce qu'il a trahi, il a changé le programme, le plan de gouvernement, il a changé le plan, si vous voulez, progressiste pour un plan néolibéral. Donc, ils m'ont averti, ils m'ont menacé. On va vous envoyer en prison. Ils ont commencé à persécuter, ils ont pris le contrôle du système judiciaire. Et c'est ce moment-là qu'a commencé la persécution. Mais quand j'ai arrêté, quand j'ai laissé le pouvoir quitter la présidence, je n'avais rien de tout, rien de tout.
Ils ont joué sur les questions de corruption.
Ah, bien sûr. Ah, et vous avez dit 25 ans d'inhabilitation politique, maintenant c'est 8 ans. Bien sûr, ils ont inventé des cas de corruption, mais qui sont pas... sont ridicules, sont vraiment quelque chose incroyable, par exemple. Et la même pas, je ne connais même pas la traduction en français. Mais quelques heures avant mon inscription comme candidat pour les élections de 2021, pour m'empêcher d'y participer, pour m'empêcher de rentrer dans mon pays, ils auraient changé les résultats des élections. Quelques heures, le 17 septembre, à 20h, dans la pandémie, tous les procès judiciaires et criminels étaient arrêtés, sauf le mien, sauf celui contre mon gouvernement. Ils m'ont condamné pour influence psychique, influjo psychique, influence psychique. Oh, je peux vous montrer la sentence. Soit disant qu'avec la influence psychique, j'ai commandé une organisation criminelle qui recevait des pots de vin. Tous sont des mensonges. Vous pouvez demander à une université sérieuse de Paris, de la France, voir ces procès judiciaires. Mais comme ça, ils m'ont empêché de rentrer dans mon pays, d'être candidat, et ils m'ont volé ma réputation, ma liberté, mais aussi, ils ont volé la démocratie au peuple équatorien, parce que à cause de ça, Lasso, le président de droite, a été élu.
Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous êtes amer, en colère?
Non, je crois qu'on peut contrôler la haine. Ça qu'on ne peut pas contrôler, c'est la mémoire. Il faut se rappeler de tout ça, il faut corriger, il faut sanctionner toutes ces immoralités, toutes ces illégalités, pour les éviter dans le futur. Autrement, on va les faire de nouveau, permettre de nouveau dans le futur.
Tout faire pour que l'histoire ne se répète pas.
Oui, c'est ça, on doit apprendre du passé.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, Rafael Correa, votre pays, l'Équateur, dont je rappelle qu'il a 17,5 millions d'habitants, qu'il se situe, pour nos auditeurs, entre la Colombie et le Pérou, l'Équateur a été secoué récemment par des manifestations qui ont fait 6 morts et plus de 600 blessés, touchant particulièrement le centre de Quito, mais pas seulement. Des blocages de routes ont également affecté 19 des 24 provinces du pays. Un millier de puits de pétrole ont aussi été bloqués en Amazonie. Les manifestations visaient la cherté de la vie. Elles étaient organisées par la puissante Confédération des nationalités indigènes, la CONAI. Peut-être vous est-il difficile de parler de la politique de vos successeurs, mais quel regard portez-vous sur les mobilisations du mouvement indigène et ce qui s'est passé récemment?
Et pas du tout, je peux très bien parler de tout ça, je les connais très bien. En tout cas, je voudrais ajouter que la Belgique m'a donné l'asile politique. Ça, comme la jeunesse dit, game over. Parce que c'est la démonstration que tout a été de persécution politique. On est des gens honnêtes, que les corrompus toujours ont été eux. Donc, on a maintenant l'asile politique, grâce à Dieu, de la Belgique. On est plus protégés pour, en face de toute cette persécution. Mais il y a beaucoup de gens de mon gouvernement, des gens honnêtes, patriotes, qui ont été persécutés, ont été exilés, etc. En tout cas, oui, les manifestations qu'il y a eu, vous savez, c'est aller de nouveau au passé. Parce que c'était le pays que j'ai trouvé en 2007. Après 10 ans de bon gouvernement, de beaucoup de prospérité, beaucoup de progrès, de justice sociale, de souveraineté, de dignité, on n'a pas eu de manifestations. Et quand ils ont essayé de faire des manifestations, la popularité du gouvernement était beaucoup plus forte. Mais je ne partage pas tout à fait ces sortes de manifestations. Pourquoi? Parce que c'est la même CONAI. CONAI, c'est l'organisation indienne plus grande, Confédération des Nationales Indigènes de l'Équateur, qui il y a un an ont soutenu Lasso. Ils l'ont aidé pour être contenu. Ils l'ont élu à Lasso comme président avec un programme néolibéral. Et après un an, il veut changer le programme néolibéral. Donc, il doit décider si ils sont d'accord avec la démocratie ou pas. Parce que c'est ça qui l'ont aidé à être élu. Un programme, un président néolibéral. Après dire ça, je dois, et tout le monde doit, avec toutes les forces, rejeter la répression qu'il a eu. Il a eu une répression brutale. Il y a des partis légitimes de la demande de CONAI. Par exemple, Lasso a menti. Non, que il va solutionner les problèmes universitaires, tous les étudiants peuvent, tous les jeunes peuvent étudier ça qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. C'est pas vrai. C'est un gouvernement tout à fait raté. On a laissé un pays qui était le 12e plus sûr de toute l'Amérique latine. Maintenant, c'est des pays de nouveau, avec la plus grande insécurité. Un pays avec assez de risques pour les personnes dans l'Amérique latine, des pays les plus dangereux de l'Amérique latine. Et aussi, la corruption. Lasso, le président Guillermo Lasso, est un des 3 présidents latino-américains impliqués dans le scandale de Pandora Papers. Il a dû être jugé, il a dû être mis à la porte, mais il est protégé par tout l'establishment, pour les médias, pour toutes les institutionnalités de l'État, parce qu'ils ont pris contrôle de tout ça avec un coup d'État, sauf coup d'État, qu'ils ont fait en 2019, 2018, avec un référendum tout à fait inconstitutionnel. En tout cas, c'est pour ça que le gouvernement y en a, de sortie constitutionnelle pour avancer les élections et pour résoudre des conflits comme le conflit qu'on a eu à la place d'avoir des morts, de la violence, etc. Mais pas les aspirations de la CONAI. Imposer l'herbe programme politique qui n'a pas gagné les élections. Je ne sais pas si je suis en train de bien m'exprimer. Donc, je ne partage pas ça. Les manifestations, la proteste, devait être contre la corruption, contre les mensonges, contre l'inefficacité du gouvernement. Mais pas contre le néolibéralisme. Si c'est ça le programme qui a gagné il y a un an. Mais c'est aussi contre ça qu'a protesté la CONAIE et ça doit changer. Il doit décider s'ils sont d'accord avec la démocratie ou pas du tout.
Juste pour nos auditeurs, le président Lasso a été élu en mai 2021. Là, dans les récents événements, il a échappé de justesse à la destitution. À vous entendre, et c'est vrai que dans l'histoire de l'Équateur, c'est tout de même une je ne vais pas dire une constante, mais enfin, plusieurs fois, c'est arrivé. C'est la CONAIE qui fait et défait les présidents équatoriens
Pendant les dernières décennies, oui, jusqu'à mon gouvernement. Depuis le début du siècle XX, oui, c'est la CONAIE qui a, avec des manifestations, fait tomber des gouvernements. Avant, étaient aussi les organisations des travailleurs, par exemple, le FUT, Frente Unitario de Travailleurs. Mais la CONAIE, c'est, si vous voulez, une organisation qui est née pendant les années, ici on dit 90, 90.
Hein? 90
et après, il a obtenu beaucoup de force et parfois il ne sait pas gérer sa force. Donc il essaie de s'imposer, pas démocratiquement, mais par la force. Et ça, ce n'est pas démocratique, ça, ce n'est pas constitutionnel, ça, ce n'est pas légitime.
Alors, il y a des bruits qui ont circulé en France, Rafael Correa, sur justement les événements de ces dernières semaines en Équateur, en disant que peut-être vous aviez vous-même encore beaucoup d'influence en Équateur et que vous étiez derrière les protestations. ça vous est sûrement revenu.
Non, que j'ai financé aussi 15 millions de dollars de l'argent du narcotrafic. On dit n'importe quoi. Mais c'est ça, on est dans une époque assez bizarre quand même. N'importe qui peut dire n'importe quoi et on va répéter tout ça. Mais où sont les preuves? Je n'étais même pas en Belgique, j'étais en Honduras. Donc c'est... L'autre fois, pendant les manifestations d'octobre 2019, ils ont dit que j'étais à Mérida, en Venezuela, en train de coordonner toutes les manifestations. Je ne connais pas Mérida. Mais on dit n'importe quoi et n'importe qui. Donc il faut arrêter ça, il faut arrêter. Il faut stopper les mensonges. Les maisons sont en train de nous détruire comme société.
Vous écoutez Géopolitique.
Quels sont, d'après vous, Rafael Correa, les plus gros défis pour l'Équateur aujourd'hui?
Le défi permanent de toute l'Amérique latine, c'est supérer les sous-développements. Deux siècles de sous-développements sont assez. Ça doit être l'obsession de tout politicien, l'obsession de l'Académie latino-américaine. Mais... On parle de temps pour voir qui gagne la prochaine élection, pour occuper plus de place à l'Assemblée, au Congrès, pour partager le pouvoir. C'est comme un jeu politique. Quand on doit avoir un sens de mission, et la mission de tout politicien latino-américain, l'obsession doit être supérée définitivement le sous-développement.
Alors, le sous-développement, justement, et les inégalités, on y vient, parce que c'est vrai que c'est une sorte de fil rouge quand on évoque l'Amérique latine. Je l'ai dit en introduction, vous vous consacrez aujourd'hui surtout à l'économie, après la politique, science dont vous êtes titulaire d'un doctorat. Vous préparez un livre dont le titre en français est « L'énigme du développement, une vision latino-américaine », livre dont vous avez donné quelques éléments à l'occasion d'une conférence tenue à Paris, à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle. Vous parlez de l'Amérique latine comme d'un continent des malentendus.
Bon, ça c'est une phrase d'Alain Rouquier.
Avec un grand spécialiste de l'Amérique latine.
Dans un essai, qui pour moi c'est le meilleur essai sur l'Amérique latine, s'appelle en espagnol « Amérique latine, introduction à l'extrême occident ». Il appelle l'Amérique latine dans ce livre-là le continent du malentendu. Parce que depuis la découverte, Cristóbal Colón croyait qu'il était arrivé aux Andes. Et maintenant, c'est un continent assez mal connu dans le reste du monde et particulièrement dans l'Europe. Par exemple, on croit que tout c'est le climat tropical, humide, la chaleur. Et par exemple, les pays avec les Andes, on a des vallées avec des climats tempérés. Et on croit que tout le monde est indien, quand la plupart de la population est métisse, on a des populations afro. Donc, c'est un continent assez mal connu.
Et dont l'Europe ne s'occupe plus beaucoup.
C'est triste, hein, parce qu'elle ne s'occupe pas trop et n'est pas intéressée. La seule chose dans l'agenda européen par rapport à l'Amérique latine, c'est Venezuela. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Les loafers, la persécution politique en Équateur contre Lula da Silva au Brésil, ne sont pas seulement en train de voler notre tranquillité, notre calme, notre réputation. Ils sont en train de voler notre démocratie. Pourquoi? Parce qu'en m'empêchant d'être candidat, ils ont permis de gagner à l'asso. Quand ils ont mis en prison à Lula,
l'ancien président
ils l'ont fait Bolsonaro, président du Brésil. Ils sont en train de voler les démocraties latino-américaines.
On en parlera du Brésil un peu plus loin dans l'émission, Rafael Correa, si vous en êtes d'accord. Je poursuis sur les questions économiques. L'Amérique latine détient le triste privilège d'être la région la plus inégalitaire au monde. Ça, vous en savez quelque chose. Des inégalités qui plongent leurs racines dans les structures économiques mises en place lors de la colonisation ibérique, se caractérisent par d'importants écarts territoriaux et des taux de pauvreté qui varient considérablement selon la condition ethnique et raciale. C'est aussi un élément sur lequel vous aimez écrire et raconter. Donc, selon la condition ethnique et raciale des populations latino-américaines, outre les conséquences d'un point de vue sociétal de ces grandes inégalités, cette question des inégalités, c'est un grand défi politique pour l'Amérique latine.
C'est le plus grand défi. C'est le grand péché de l'Amérique latine. Et c'est la condition pour... suffisant, si vous voulez, pour être sous-développé. Parce que, à cause de la grande inégalité qu'on a héritée depuis la colonie, on n'a pas su prendre les bonnes décisions d'action collective. Les décisions d'action collective étaient en fonction des plus puissants, pas en fonction de la majorité. On détruit la qualité de la politique. Parce que la politique, on peut définir la politique comme la façon rationnelle de prendre des décisions d'action collective. Donc, il n'avait pas de rationalité, ou s'il avait de rationalité en fonction de quelques groupes de pouvoir, pas de la plupart de la population. Les États latino-américains ont été des États fictifs, des États, on dit, Zabaleta, un grand penseur bolivien, disait, estados aparentes, soi-disant
des États en apparence.
Parce qu'il était d'État seulement pour défendre les intérêts des groupes privilégiés. Donc, et c'est pour ça qu'Amérique latine, c'est une raison. Pas la seule raison, mais une raison suffisante pour continuer dans les sous de l'homme.
Alors, il y a une question que vous avez évoquée dans la conférence que vous avez donnée tout récemment à Paris, c'est la question de la race. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un élément que vous soulignez particulièrement pour expliquer combien la question du changement est une question compliquée pour l'Amérique latine.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'index, d'indicateurs, de développement, non? La production par tête, etc. Pour moi, peut-être le plus important, le plus significatif, c'est la mobilité sociale. Les opportunités, en fonction de réussir dans la vie, ça veut dire d'avoir une bonne vie avec les besoins basiques remplis, etc. Mais cette mobilité sociale, dans l'Amérique latine, n'existe pas. Si vous êtes indien, si vous êtes afro en Amérique latine, la probabilité de naître pauvre, c'est presque 100%. Ici, on dit 95%, désolé, 99%. Et la probabilité de mourir pauvre, c'est presque la même. Par contre, si vous êtes d'une famille d'Astingué, d'Abolengo, non? Blonde, etc., la probabilité d'être né riche, c'est 95%. Et la probabilité de mourir riche, c'est 95%. Il n'y a pas de mobilité sociale. Il savait dire qu'il y a des systèmes excluants, des systèmes qui ne donnent pas d'opportunités. Il n'y a pas d'égalité de conditions, il n'y a pas d'égalité d'opportunités. Et ce sont des systèmes d'exclusion qui sont en train de mettre à côté des groupes, surtout très bien définis à niveau ethnique, par exemple les Indiens et les Afro.
Merci Rafael Correa, on vous retrouve après.
RFI. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Notre invité, l'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa, également économiste, chef de l'État équatorien de 2007 à 2017. Rafael Correa vit aujourd'hui en Belgique, il est consultant économique. Rafael Correa, on a parlé dans la première partie de l'émission d'économie, vous avez terminé votre propos sur l'Amérique latine, le continent de l'exclusion. Vous défendez la volonté d'indépendance de l'Amérique latine, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Et à l'occasion de la conférence que vous avez tenue il y a quelques jours à Paris, j'ai été étonnée de constater que vous ne parliez pas du tout de la Chine, Rafael Correa.
Parce que la conférence était visée au rapport, relation et la comparaison au niveau de développement entre les États-Unis et l'Amérique latine. Mais si vous voulez, on peut parler de la Chine. On a très fort développé les relations bilatérales avec la Chine et on était un exemple pour toute la région parce que la Chine, c'est le principal financiste du monde. Elle finance les États-Unis. Pourquoi pas financer un petit pays comme l'Équateur? Pas seulement ça. Quand j'ai été nommé ministre des Finances, d'Économie de l'Équateur en 2005, j'ai dit clairement, la Chine a capacité de financement. Nous avons nécessité de financement pour le développement. La Chine, quel est le talon d'Achille, la faiblesse de la Chine? L'énergie, le pétrole, les hydrocarbures.
On dit, les hydrocarbures, oui. Hydrocarbures. Ça, vous en avez.
OK. Et qu'est-ce qu'il y a, Équateur? On est exportateur du pétrole. Donc, on est complémentaire. Et on a établi, après comme président, on a établi de très bonnes relations. On a fait de très forts investissements historiques, des projets électriques, etc., grâce au financement de la Chine. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bizarre à tout ça? Donc,
alors justement, dans le bilan qui est fait de votre présidence, dont je rappelle la longueur, 2007-2017, donc 10 ans à la tête de l'Équateur, alors on dit que vous avez gouverné de manière autoritaire, mais puisqu'on parle de la Chine, surtout que vous avez laissé un pays très endetté vis-à-vis de la Chine. Alors d'un côté, vous dénoncez la dépendance du continent vis-à-vis de l'Amérique latine, mais vous trouvez que la dépendance vis-à-vis de la Chine, elle est...
N'importe quelle dépendance est terrible. On aime trop la souveraineté et l'indépendance. Mais il faut démontrer tout ça avec des données. On ne peut pas parler comme ça. Vous pouvez chercher toutes les publications de l'IMF, Fonds monétaire, qui n'est pas si ami. Que...
Oui, ça, vous ne les aimez pas beaucoup, non. Ni la Banque mondiale, ni le Fonds monétaire
international. Toujours, l'Équateur était classifié pendant mon gouvernement comme un pays de bas endettement. Ça, c'est la vérité.
Les autres de faible endettement.
De faible endettement. De faible, très bas dette. Donc, la dette extérieure avec la Chine jamais a dû être supérieure à 8% de la production nationale. 8%. Et pourquoi? Pas pour les dépenser comme ça, pour des projets extrêmement rentables. Peut-être de crédit à 6-7% pour des projets avec une rentabilité de 30-35%. Ça, c'est la rentabilité d'un projet hydroélectrique. Donc, c'était une très bonne affaire. Non? Et on a laissé des projets qui rendaient beaucoup de rendement, désolé, d'argent pour payer la dette. Mais ce sont des mensonges. Il faut parler avec des données.
Est-ce que dans la relation avec la Chine et dans la façon dont l'Amérique latine voit la Chine, finalement, les pays sont, si on doit comparer la relation avec la Chine, avec celle des États-Unis, il n'y a pas dans la relation avec la Chine tout le passé qu'il y a eu avec les États-Unis, qui est un passé compliqué. D'ailleurs, vous l'expliquiez dans cette conférence. On a longtemps parlé d'Amérique latine, cours arrière des États-Unis. Vous vous posez la question d'ailleurs de savoir pourquoi finalement c'était pas l'inverse qui se
passait.
Mais est-ce que vous n'avez pas une vision finalement tout de même un peu différente eu égard au passé entre les uns et les autres qui est différent, Rafael Correa?
Je ne comprends pas bien la question.
Ce que je veux dire, c'est que dans la relation avec les États-Unis,
oui,
il y a une certaine amertume.
Je ne partage pas cette vision. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié grâce aux États-Unis. Mon doctorat, je l'ai obtenu à l'Université d'Illinois, aux États-Unis. J'aime bien, j'admire les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire, ni est la réalité. La foreign policy, la politique extérieure vers l'Amérique latine, historiquement, était terrible. Mais je n'aime pas non plus jouer le rôle de victime. Ah, on est les pauvres, exploités pour les États-Unis. La première question qu'on doit nous poser comme latino-américains, c'est pourquoi on est les victimes. Non, on a commencé notre vie républicaine presque au même temps. Les deux régions, les États-Unis et l'Amérique latine, ont été des colonies d'Angleterre, les États-Unis, nous de l'Espagne. Pourquoi ils ont réussi et nous, pourquoi nous continuons dans les sous-développements? C'est ça la première question qu'on doit nous poser.
Vous avez la réponse?
Bon, hier, j'essayais de donner quelques réponses des erreurs qu'on a fait dès le début, la classe de colonisation qu'on a eue, mais aussi les conditions initiales. Aux États-Unis, bien sûr, ils ont massacré les populations indigènes, mais parmi les Blancs, il y avait une impressionnante égalité de conditions. Ça, l'a observé Alexis de Tocqueville quand il a visité les États-Unis. Par contre, l'Amérique latine n'a jamais eu égalité de conditions, égalité d'opportunités, égalité de n'importe quoi. Toujours, il y a eu des relations verticales, une petite élite qui se crée européenne, qui se crée supérieure au reste, en train de dominer nos pays et sans donner des opportunités pour le reste.
Alors, puisqu'on parle des États-Unis, Rafael Correa, Washington, enfin pas la ville de Washington, mais la capitale de la Fédération, donc les États-Unis étaient organisateurs cette année du Sommet des Amériques. Un rendez-vous qui est censé réunir les chefs d'État du continent. Il y a eu une controverse jusqu'à la dernière minute. Les Américains ne voulaient inviter ni Cuba, ni Venezuela, ni le Nicaragua, c'est-à-dire les pays de gauche d'Amérique latine. Votre opinion?
Le sommet était des pays américains ou des pays de droite? Parce que la Cuba, si je suis trompé, il faut me dire. Cuba, Nicaragua, Venezuela, je crois que sont des pays américains, hein, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas possible d'accepter ça. Qu'ils vont décider qui est américain et qui n'est pas américain.
On avait pensé au début de la présidence de Joe Biden qu'il y aurait une politique qui changerait de la part des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine. Vous êtes un grand déçu de l'administration Biden?
Pas du tout. Je n'attendais rien de plus de l'administration Biden. Et c'était autre erreur que j'ai remarqué dans ce moment-là. La politique extérieure des États-Unis, c'est indépendant du gouvernement. Bien sûr, hein, je crois que Biden, je connais Biden, c'est une bonne personne comme Obama, des gens capables. Trump, je ne crois pas, je ne connais pas Trump, mais je ne crois pas que c'est une bonne personne. Et ça, c'est important quand même. Mais la politique extérieure des États-Unis va être presque la même si dans le gouvernement, dans la présidence des États-Unis, Biden, Trump, Obama, Clinton, n'importe qui. Parce que c'est une politique fort indépendante et toujours en fonction des États-Unis, et ça c'est légitime. Toute politique extérieure d'un pays doit être en fonction des intérêts de cet pays, mais toujours en respectant les droits des autres pays. Et ça c'est le problème, qui parfois c'est excluant. Mes intérêts, mes visions, mes objectifs, et le reste n'existe pas.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors le Venezuela, on en redit quelques mots. Le président, enfin les États-Unis ont soutenu Juan Guaido, voilà l'opposant à Nicolas Maduro. Et la France a embrayé le pas et elle a fait la même chose.
Incroyable.
Dans sa reconnaissance.
Je ne pouvais pas le croire. Incroyable.
Et alors tout à coup, avec la guerre en Ukraine, Joe Biden envoie deux émissaires à Caracas pour discuter avec le gouvernement de Nicolas Maduro, avec lequel personne, pas un Américain, ne souhaitait discuter. Tout cela sur fond d'hydrocarbures, on y revient, d'hydrocarbures, de pétrole. Ça vous inspire quoi, Rafael Correa, ce revirement américain vis-à-vis du Venezuela?
Ça vérifie que... D'abord, le pragmatisme des Américains. No? Deuxième chose, que les pays, comme a dit Lord Palmerston, un célèbre premier ministre de l'Angleterre, quand la reine d'Angleterre l'a réclamé, pourquoi vous faites cette alliance? Ils ont été nos ennemis et les autres ont été nos éternels amis. Et Lord Palmerston a répondu, écoute, madame, l'Angleterre n'est pas des éternels amis, des éternels ennemis. Inglaterra a des éternels intérêts, objectifs. La même chose pour les États-Unis. D'abord, on est une colonie de l'Angleterre et britannique. No? Donc, sont très pragmatiques et sont en train de leur intérêt et ne sont pas en train de défendre toutes les interventions des États-Unis dans l'Amérique latine, les invasions à Guatemala, la République dominicana, et la déstabilisation du gouvernement chilien, etc. Parfois, c'est contre le gouvernement dictatorial, parfois contre le gouvernement démocratique, parfois pour rendre la liberté à ses peuples, parfois pour exploiter ses peuples, mais toujours en fonction des des intérêts des États-Unis. Ça, c'est le dénominateur commun. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, maintenant, ils ont essayé de bloquer la Venezuela, mais maintenant, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les prix de pétrole, ils cherchent du pétrole bon marché. Donc, ils sont pragmatiques. La politique, c'est pas qu'ils mettent en place, c'est pas en fonction des principes, des valeurs, mais en fonction de leurs intérêts.
Alors, on poursuit notre tour d'horizon des différentes situations latino-américaines avec vous, Rafael Correa. On va parler de la Colombie, qui vient d'élire pour la première fois de son histoire un président de gauche, Gustavo Petro, économiste de formation. Il a appartenu, Gustavo Petro, dans sa jeunesse à la petite guérilla urbaine du M19 qui a déposé les armes en 1990. Il a été sénateur, maire de Bogota. Il entrera en fonction le 7 août. Il a pour vice-présidente, on parlait de questions raciales, Francia Márquez, qui est une afro-descendante. Est-ce que avec Gustavo Petro, une autre Colombie est possible? En tout cas, dans la relation avec les États-Unis, c'est vrai que beaucoup de choses vont.
C'est presque un miracle. C'est quelque chose d'incroyable. Vous me posez ces questions il y a 4 ou 5 ans. Est-ce que vous imaginez un gouvernement de gauche, Gustavo Petro comme président de la Colombie, et vous aurez répondu pas du tout. Ça, c'est pas possible. C'est presque un miracle. C'est une extraordinaire bonne nouvelle pour les. L'Amérique latine, la Colombie peut-être c'est le pays le plus conservateur de l'Amérique latine, le plus inégal, le plus violent, le plus violent au moins, parce que le Mexique c'est aussi assez violent, et avec des concentrations de la terre, de la propriété incroyables. Donc, bien sûr qu'un gouvernement comme le gouvernement de Gustavo Petro, une personne très bien préparée, non? Et peut changer les choses, mais va être aussi très difficile. Être politicien, surtout politicien de gauche, en Colombie, c'est risquer la vie.
C'est cela sur lequel je voulais vous relancer. Être de gauche en Amérique latine, pour un président, vous-même vous l'avez vécu, président de l'Équateur de 2007 à 2017, c'est quelque chose de particulièrement compliqué.
Bien sûr. D'abord, gouverner des pays. Como Ecuador, como la Colombia, es más difícil que gobernar los Estados Unidos, que gobernar la Francia, que gobernar la Bélgica. La Bélgica puede rester sans primer ministro pendant un an y vous ne noterez pas la diferencia. Si vous arrêtez de travailler un après-midi dans un pays como Ecuador, la Colombia, on va voir la diferencia. Donc, d'abord, c'est beaucoup plus difficile de gérer. Son des pays beaucoup plus difficiles de gobernar. Deuxième chose, défier le status quo, défier l'existence et risquer la paix. Si vous êtes de la gauche décorative, que voilà, il parle très joli, mais c'est pas un danger pour le système. Bon, vous allez avoir le soutien des médias. Mais si vous êtes en risque pour le système, vous serez toujours attaqué et bien sûr, parfois agressé. Et bien sûr que vous risquerez la vie.
Être un risque pour le système quand on est un président de gauche, c'est aussi ce qu'a vécu Lula à la tête du Brésil. Et qui se présente pour l'élection dont on peut parler maintenant aussi, cet automne, dans ce géant d'Amérique latine qu'est le Brésil. Rafael Correa.
Lula risquait beaucoup. Vous pouvez voir, on l'a volé 2 années de sa vie. On l'a mis en prison. Et maintenant, on voit que tout était un complot, que tout était des mensonges. Mais qui peut le rendre, les 2 ans de vie qu'il a passé à la prison? Sa femme est morte à cause de toute la pression. Quand il était en prison, son petit enfant... préféré est mort, est décédé. Cette souffrance, qui va les rendre? Qui va compenser ces souffrances à Lula? Donc, le monde doit être plus attentif à tout ça qui arrive dans l'Amérique latine. Ce n'est pas juste. C'est trop. C'est contre les droits de l'homme, c'est contre la démocratie. Mais, malheureusement, je dois reconnaître, je dois le dire, qu'on doit faire face à l'indifférence mondiale.
L'indifférence mondiale. Et... l'indifférence européenne aussi. Et surtout dans l'indifférence cette Europe, européenne.
J'ai attendu beaucoup plus de l'Europe. J'ai des rapports avec la diplomatie de la Belgique non? Et de l'Europe en général, comme ancien président, et aussi pour des raisons familières. En tout cas, les rapports qu'envoient les ambassadeurs de l'Europe en Amérique latine, c'est que tout marche bien. En tant que les entreprises européennes vont bien, tout marche bien. Même s'il n'y a pas de démocratie, si on ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Donc, oui, on attend un peu plus de l'Europe.
Et vous attendez l'Europe sur quoi, Rafael Correa?
On doit. Ils ont pris la droite, la restauration conservatrice, comme on l'appelait, il ne respecte pas la démocratie, il ne respecte pas les droits de l'homme. Il utilise la justice avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, il faut le dire. Non? Avec des juges corrompus, avec des procureurs corrompus, non? Il utilise le système judiciaire pour la persécution politique. Et il n'y a pas d'alternative dans les pays. La seule alternative pour arrêter tout ça, c'est le contrôle international, non? La dénonce, l'implication internationale. Et l'Europe peut faire beaucoup là-dessus.
Alors, est-ce que l'Espagne a un rôle, qui est le pays colonisateur, l'Espagne d'un côté, puisqu'on parle de Brésil, le Portugal de l'autre, est-ce que vous avez moins de reproches à faire aujourd'hui à l'Espagne et au Portugal que vous ne pouvez en faire à la Belgique ou à la France, Rafael Correa ?
Je suis très déçu de l'Espagne. Parce que ça que j'ai dit, c'est surtout pour l'Espagne. En tant que Telefónica, l'entreprise espagnole de communication, avec beaucoup de présence dans l'Amérique latine. En tant que Telefónica va bien, tout va bien pour l'Espagne. Donc, les rapports internationaux sont réduits aux rapports commerciaux, aux rapports d'investissement. On ne voit pas ce qui est en train d'arriver avec la situation des droits de l'homme, de la démocratie, la persécution politique, etc. Donc, je suis très déçu de l'Espagne.
Et le Portugal, même si vous n'êtes pas directement
concerné?
Je n'ai pas
trop de rapports avec le Portugal, je n'ai pas jugé. Oui, semble-t-il qu'ils n'ont pas donné non plus le soutien quand il fallait le donner à Lula, non, pour arrêter toute la persécution contre Lula.
Alors c'est vrai que l'Amérique latine, l'Europe s'en est beaucoup occupée durant la fin de la guerre froide, hein, quand il y avait encore cette opposition entre d'un côté les États-Unis, de l'autre l'URSS. On s'en occupe moins aujourd'hui. Quel message vous aimeriez faire passer aux autorités françaises?
Si on veut un monde meilleur, il faut faire un ordre mondial mieux, pas à double standard. Parce que, par exemple, si en Nicaragua, on a dénoncé, et ça a scandalisé le monde, qu'on a mis en prison des candidats présidentiels pour faire gagner à Daniel Ortega. Bon, exactement la même chose, ils l'ont fait en Équateur, mais de la façon plus ouverte. Quelques heures avant mon inscription, comme candidat, je voulais m'inscrire comme vice-président, ils ont sorti une sentence pour influence psychique, en pleine pandémie, quand tous les procès criminels étaient arrêtés. 2 milliards de procès criminels étaient arrêtés, seulement on continuait avec les miens pour m'empêcher. Il y a des preuves comme les membres du Conseil national électoral ont appelé des autres candidats pour dire qu'il faut nous donner du soutien pour retarder les élections, pour avoir du temps pour condamner à Correa. Tout était en plan pour m'empêcher d'y participer. Donc, ça doit scandaliser le monde. Il y a l'indifférence du monde. On doit avoir un ordre mondial avec une seule morale et qui doit surtout superviser les droits de l'homme. On ne peut pas passer quelques limites, même si on est de droite, on est de gauche. Les droits de l'homme, les droits à la liberté, à la réputation. On ne peut pas détruire la démocratie. Et avec toute cette tricherie, on est en train de voler les démocraties et le peuple. Donc, l'ordre mondial doit condamner tout ça. Mais maintenant, l'ordre mondial, c'est en fonction des convenances des États-Unis et malheureusement aussi, très souvent, de l'Europe.
Alors, on l'a évoqué, la gauche en Amérique latine, elle est représentée au Nicaragua, au Venezuela, à Cuba, qui subit toujours un embargo. Il y a aussi la Colombie. Cet automne, le Brésil, les élections, avec peut-être la fin de la présidence Bolsonaro et le retour de Lula. Vous êtes optimiste pour...
Toujours optimiste. Il faut être réaliste, mais toujours optimiste. On dit toujours, il peut voler tout, sauf notre espoir. Nous pouvons robar tout, menos l'espérance.
Merci, Rafael Correa, pour cet entretien passionnant. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Équateur, également économiste, que vous avez été chef de l'État équatorien de 2007 à 2017 et que vous vivez aujourd'hui en Belgique. Merci beaucoup.
Je vous en prie, madame. Merci beaucoup.
Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie.